Walter Scott, Quentin Durward. Adaptation par Henri Bornec. Introduction. Sir Walter Scott naquit à Édimbourg le 15 août 1771 et mourut le 21 septembre 1832 à Abbotsford en Écosse. Il était le troisième fils d'un avoué, savant dans le droit féodal et dans l'histoire de l'Église, nous dit Taine, lui-même grand amateur d'antiquités, surtout d'antiquités nationales, en sorte que, dans son éducation, dans sa personne, il trouvait les matériaux de son œuvre et les aiguillons de son talent. Les circonstances agirent dans le même sens. À 18 mois, il fut atteint d'une infirmité qui le rendit boiteux pour la vie. Aussi devint-il liseur. Mais son ardeur se concentrait sur les contes, même durant ses études. Il épuisa rapidement le fonds de l'unique cabinet de lecture existant alors à Édimbourg, puis il dévora presque entièrement la magnifique bibliothèque de Kelso, ville d'Écosse où il avait été chercher le complet rétablissement de sa santé. En même temps, autour de lui, il entendait les récits dont il s'inspira plus tard, celui des souffrances exercées contre les Highlanders, celui des souffrances endurées par le parti religieux et politique des Covenanters. À 16 ans, sachant prodigieusement l'histoire, assez de grec, pas mal de latin, de français, d'allemand et de philosophie, il se mit à étudier le droit. Avec l'intention de succéder un jour à son père. Mais dans sa journée, les codes tenaient moins de place que la littérature. Son pupitre de clerc d'avoué abritait toutes les œuvres d'imagination, tous les récits aventureux et féodaux qui lui tombaient sous la main ou qu'il pouvait se procurer. Ayant fait une maladie, écrit encore Taine, il fut retenu longtemps au lit avec défense de parler, sans autre divertissement que la lecture des poètes, des romanciers, des historiens et des géographes, occupé à éclaircir les descriptions de batailles par des arrangements et des alignements de petits cailloux qui figuraient les soldats. Une fois guéri et bon marcheur, il tourna ses promenades vers le même emploi et se trouva passionné pour le paysage, surtout pour le paysage historique. Entre autres excursions studieuses, il fit pendant 7 ans un voyage chaque année dans le district sauvage et perdu de Liddesdale, explorant chaque ruisseau et chaque débris, couchant dans la hutte des bergers, ramassant des légendes et des ballades. Jugé par là de ses goûts et de son assiduité d'antiquaire. Ce fut au cours d'une de ces excursions qu'il rencontra sa future femme, Charlotte Mary Carpenter, fille d'un protestant réfugié en Écosse avec sa famille, à la suite de la Révolution française. Il se maria le 24 décembre 1797. Aussi bien avait-il toujours détesté le mouvement politique inauguré par la prise de la Bastille. Il alla même, précisément en 1797, jusqu'à organiser un corps de cavalerie qui, d'ailleurs, n'eut jamais à donner contre nous. Walter Scott avait été reçu avocat en 1792. Il se montra stagiaire assez assidu. D'ailleurs, par prudence, il accepta plus tard les fonctions, très grassement rémunérées, de greffier en chef de la cour des sessions, place que lui valut sa renommée. C'est que, en attendant les grands poèmes de Byron, Walter Scott était réputé le premier poète d'Angleterre, avec ses « Chants de la frontière écossaise » et son « Lait du dernier ménestrel », publié de 1802 à 1805. La publication de son poème « La Dame du Lac » 1811, où il peint la vie, les mœurs et le caractère des anciens Highlanders, ajoute encore à sa réputation. Cependant, tout comme notre Balzac, il forma le plan d'entreprises grandioses et variées. Toutes ne réussirent pas, il s'en faut. Mais les difficultés pécuniaires n'empêchèrent pas Walter Scott d'acheter le domaine d'Abbotsford, pour lequel il quitta la petite ferme d'Achille sur la Tweed, où il habitait depuis 1804. Sur le terrain qu'il avait acquis, il se fit construire un château à l'imitation des anciens preux, nous dit Lockhart. Tours et tourelles copiées chacune d'après quelques vieux manoirs écossais. Toits et fenêtres blasonnés avec les insignes des clans, avec des lions rampant sur gueule. appartement rempli de hauts dressoirs et de bahuts sculptés, décoré avec des targes, des plaids et de grandes épées de Highlanders, avec des hallebardes, des armures et des andouillers disposés en trophées. Pendant 20 ans, il fit à tout étranger les honneurs de l'Écosse, de l'ancienne Écosse. Comment expliquer ce revirement dans la situation matérielle de Walter Scott? C'est que, en 1812, à la publication de Childe Harold, Walter Scott sentit que, en poésie, il ne serait plus que le second. Dès lors, avec sa résolution coutumière, il renonça au vers et commença la série de ses ouvrages d'imagination qui lui rapportèrent 6 millions. En France seulement, on vendit plus de 1 500 000 exemplaires des romans de Walter Scott. Le premier fut Waverley, publié en 1814, sans nom d'auteur, et qui piqua immédiatement la curiosité publique. Pour le dire tout de suite, Walter Scott ne dévoila cet incognito qu'en 1827, dans un dîner intime à Édimbourg. Vinrent ensuite, encore anonyme, Guy Mannering, 1815, L'Antiquaire, 1815, Les Puritains d'Écosse, 1816-1817, Rob Roy, 1817, et La fiancée de Lamer Moore, 1819. En 1820, il donna Ivanhoé, le plus intéressant de ses romans avec Quentin Durward. Ivanhoé inaugure chez Walter Scott une nouvelle manière. L'auteur, quittant la vie réelle, l'observation, le portrait, se lance à corps perdu dans la fantaisie. Et si, au point de vue historique, le récit se charge d'anachronismes, au point de vue dramatique, il gagne une vigueur magnifique et une intensité de couleurs jusqu'alors inconnue. René Samuel. Cependant, le succès va grandissant. En 1820, Walter Scott est créé baronnet. Cela ne l'empêche pas de continuer à se débattre dans les embarras d'argent que lui causaient les embellissements d'Abbotsford, les frais de l'hospitalité qu'il y donnait aux visiteurs de marque, attirés par la réputation de l'écrivain, enfin les voyages qu'il faisait avec un train de grand seigneur. Pour combler le déficit, toujours croissant, et qu'il ne réussit jamais à éteindre, disons-le tout de suite, il publia, dans les 10 années suivantes, de nombreux ouvrages, romans, dont les plus connus sont Kenilsworth, 1821, Quentin Durward, 1823, La jolie fille de Perth, 1825, Les contes d'un grand-père, 4 séries, La vie et les œuvres de Dryden et de Swift, Une vie de Napoléon, en 9 volumes, très médiocre, sans parler d'articles donnés à différents périodiques. En 1830, il fut frappé d'apoplexie. Une nouvelle attaque, un an après, l'affaiblit beaucoup. Un voyage à Malte et en Italie, 1832, ne le remit pas. Au retour, à Nimègue, une troisième attaque le terrassa. Il put néanmoins regagner sa chère Écosse et y rendre le dernier soupir, au milieu des siens. Pour la postérité, Walter Scott reste l'auteur des romans traduits dans toutes les langues. Ils ont eu en Angleterre de multiples éditions collectives. En France, ils trouvent toujours des lecteurs nombreux. C'est d'abord qu'ils sont vivants et intéressants. Lord Holland, le grand homme d'État, répondait à l'éditeur qui lui demandait son opinion. « Mon opinion ? Personne de nous ne s'est mis au lit cette nuit. Rien n'a dormi, excepté ma goutte. » Puisqu'ils sont d'une inspiration parfaitement morale, Sir Walter, lui disait M. Ledlow, auquel il dictait Ivanhoé, je ne puis m'empêcher de vous dire que vous faites un bien immense par ces récits, si attrayants et si nobles, car les jeunes gens et les jeunes personnes ne voudront plus jeter les yeux sur les drogues littéraires qu'on leur fournissait dans les cabinets de lecture. Peu d'éloges pouvaient être plus agréables à un homme qui, sur le point de mourir, disait à son gendre, je n'ai plus qu'une minute, peut-être, à vous parler. Mon ami, soyez un homme de bien, soyez vertueux. Aucune chose ne vous donnera de consolation quand vous serez où j'en suis. Cependant, Walter Scott aurait-il été touché davantage encore par cette appréciation d'Augustin Thierry? Simple romancier, il a porté sur l'histoire de son pays un coup d'œil plus ferme et plus pénétrant que celui des historiens eux-mêmes. Sur ce point, Augustin Thierry n'est pas d'accord avec Taine, qui, dans son Histoire de la littérature anglaise, prétend que toutes les peintures de Walter Scott sont fausses. Les costumes, les paysages et les décors étant seuls exacts. D'après lui, Walter Scott n'est pas un amateur de vérité pure. Il est bien plutôt occupé, comme dans son château d'Abbotsford, à disposer des points de vue et des salles gothiques. L'une et l'autre opinion présentent peut-être quelque exagération. Dans les actions, les discours et les sentiments des personnages, on relèverait des inexactitudes. Nous sommes prêts à en convenir. Les personnages mêmes, surtout les personnages d'imagination pure, ici Quentin Durward et la comtesse de Croy, sont peu conventionnels. On ne saurait le nier. Mais pour nous en tenir au roman qu'on trouve ici, après l'avoir lu, n'a-t-on pas une idée suffisamment exacte de la France à la fin du XVe siècle, avec l'opposition de Louis XI et de Charles le Téméraire? Rien de plus juste et de mieux en relief que le portrait de Louis XI et le tableau de sa vie au château de Plessis-les-Tours. Quand on a terminé la lecture de l'ouvrage, il est impossible d'oublier le roi politique, ses qualités, ses défauts, ses manies, son entourage de petites gens. Tout cela dans le cadre d'un récit vivant, varié, toujours intéressant. Comment dès lors s'étonner du succès qui accueille Quentin Durward à son apparition, qui n'a cessé de l'accompagner depuis un siècle, et qui, de ce roman, dont le héros est un compatriote de Walter Scott, mais dont les péripéties se déroulent en France, a fait une des œuvres les plus populaires du grand écrivain anglais.